Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Blasio Alto Astral sur Aligre FM 93.1. Gilles Bourgarel pour vous servir, tâchez de vous être agréable. Nous reprenons notre cycle d'interviews.
Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre 2025. Nous sommes toujours à Rio de Janeiro. Je suis chez Béatrice Azevedo. Bonjour Béatrice.
Bonjour Gilles.
Merci de l'hospitalité. Vous êtes une artiste pluridisciplinaire, Béatrice Azevedo. Vous êtes chanteuse, vous êtes musicienne, vous composez, vous écrivez. Vous êtes aussi poète, vous êtes metteur en scène et comédienne. Vous avez beaucoup de talent.
Tout d'abord, merci beaucoup, vous êtes très gentil.
Alors, vous aviez déjà participé au programme Brasil Alto Astral à Paris. Vous êtes venu plusieurs fois à Paris. Vous avez même récemment habité à Paris. Vous avez fait une résidence artistique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette opportunité vous est apparue?
Ah, c'est génial. Est-ce que pendant la pandémie de Covid, et la période tragique avec Bolsonaro au Brésil, j'ai reçu une invitation pour aller à New York pour être visiting scholar à New York University. Donc, je suis là et quand Lula da Silva a vaincu les élections,
Les élections, quand il a gagné
oui,
face à Bolsonaro.
Oui, exactement. Et donc, j'ai voulu retourner au Brésil.
Pour être présente, pour accompagner un peu ce retour.
Exactement, pour contribuer avec la culture, l'éducation de mon pays. Et parce que je suis au étranger, exactement à cause de que les artistes être très persécutés pendant le fascisme de Bolsonaro.
Alors vous dites carrément fascisme.
Exactement.
D'accord.
C'est bien clair, c'est la vérité.
Alors il faut préciser, Béatrice Azevedo, que vous avez été invitée aux États-Unis également parce que vous aviez reçu un prix.
Exactement, c'est à cause de pour étudier, mais à Paris. Et donc, avant de retourner au Brésil, j'ai reçu ce prix de la Cité internationale des arts pour être artiste résident au Marais. Et quand je cherchais la localisation, je suis, oh mon Dieu, c'est devant la île de Saint-Louis.
Oui, c'est bien placé. Ouais.
Oui, les places plus belles du monde, c'est la île de Saint-Louis, j'adore. Devant la scène, et c'est une ambiance très amusante et très créative.
Oui, parce que vous êtes avec plein d'artistes tout le temps.
Oui, 300 artistes de tout le monde. Nous habitons ensemble. Chaque artiste a un atelier pour création et pour vivre. Et il est artiste, Gilles, de toutes les disciplines.
Donc ça doit être très stimulant.
Très stimulant. Un cinéaste, un mimique, un comédien, un musicien, un peintre, tous les arts. Un poète, un romanciste, un écrivain. Oui, l'interaction, c'est très riche.
Et alors vous, dans votre cas, Béatrice Azevedo, qu'est-ce que vous faisiez à la Cité des Arts?
J'ai écrit beaucoup de poèmes, de poésie et la composition musicale que j'ai fait toujours. Et donc, j'ai beaucoup de chance, de bonne chance, parce que je connais l'actrice Maria de Medeiros, qui est franco-portugaise.
Ah, elle est française aussi?
Oui.
D'accord, je croyais qu'elle était 100% portugaise.
Non, franco-portugaise. Et donc, elle est très enthousiasmante. Elle adore la musique brésilienne.
Oui, elle aime beaucoup. Elle a chanté. Hein.
Oui, elle adore la musique, la poésie brésilienne. Et c'est un trait. Et donc, nous devions amis, très proches. Et nous créons, nous faisons la création d'un spectacle Et donc, je fais la musique, nous jouons ensemble au théâtre de la Cité des Arts. Et c'est très drôle, très...
C'était
très
quel bien. Genre de spectacle?
C'est un spectacle avec, mélangé, avec toutes mes choses, c'est très mélangé. Un peu de théâtre, un peu de poésie, un peu de musique. Donc, il y a des musiciens avec nous, mais les deux, elle chante, je chante. Elle, c'est une comédienne, moi aussi. Donc, c'est une improvisation. Mais les matériels textuels, c'est mes poèmes, mes poésies et ma musique. Et donc, je joue en portugais,
oui,
avec beaucoup de sécurité. Et Maria, très généreuse, elle m'a dit, je peux traduire toute la poésie et les mots de votre chanson au français. Et donc, les spectacles sont bilingues en portugais et en français, et un petit peu en anglais aussi.
Alors, il faut dire que quand on est brésilien, on a une certaine facilité à mélanger tout, parce que ça, c'est dans l'âme du brésilien qui est déjà... déjà, le peuple est mélangé entre l'Indien, le Portugais et l'Africain. Et vous, en plus, vous avez une spécialité parce que vous vous intéressez beaucoup au courant artistique anthropophage. Mm-hmm. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Vous êtes vraiment une héritière un petit peu des anthropophagistes et des tropicalistes aussi.
Ouais, bien sûr. J'adore cette lignée des artistes qui c'est un peu révolutionnaire et en même temps très contemporain et très connecté aux ancestraux de la culture brésilienne.
Voilà. Et qui pensent que les influences qui viennent de l'extérieur sont positives, intéressant, ça permet de progresser, de s'améliorer.
C'est une ligne très ouverte pour l'autre, pour l'entorchance, pour la transformation. Et donc, c'est les concepts d'anthropophagie, c'est exactement ça, c'est ouverte autre, et c'est l'opposition des fascistes.
Ah oui.
Parce que les fascistes
et du conservatisme.
Et il n'y a pas espace pour l'autre, pour écouter l'autre, pour apprendre avec l'autre. Et l'anthropophage, c'est très ouvert.
Alors, je précise aussi pour les auditeurs, Beatriz Azevedo, que vous êtes une artiste un petit peu en dehors du circuit commercial, on est d'accord, ce qui vous vaut d'avoir une presse et des critiques qui sont toujours très, très élogieuses et vous êtes reconnue pour faire un travail de très grande qualité. Pendant la pandémie et pendant le mandat de l'ex-président Jair Bolsonaro, qui n'a rien fait pour soutenir la culture, bien au contraire, il a même fermé le ministère de la Culture.
Exactement.
Est-ce que dans votre cas, c'était plus difficile parce que vous, comme vous êtes un petit peu en dehors des grands circuits commerciaux, vous avez besoin d'une aide publique?
Exactement, mais au Brésil, Bolsonaro a interdit même la vaccine pour
le vaccin.
COVID, les vaccins pour COVID, il a interdit, il a difficulté à cause de le fascisme et de prétentiellement la religion.
Oui, il a une gestion de la crise sanitaire lamentable, qui lui a valu j'allais dire une baisse de popularité, mais il y a quand même des gens qui étaient populaires, enfin qui étaient favorables. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien. Alors, puisque vous m'amenez sur le terrain politique, Beatriz Azevedo, vous avez aussi un engagement politique. Vous êtes une personne engagée.
Oui, je suis à gauche. Toute ma vie, ma famille, mon père, c'est un architecte qui a participé du mouvement social pendant la première dictature militaire. Mon père, c'est professeur universitaire et architecte à gauche. Et donc, il y a une tradition. Et
la dictature de 1964 à 1984.
Oui. Mon père à lutter avec les étudiants et les travailleurs.
Mais vous avez aussi un engagement ici à Rio de Janeiro.
Oui, parce qu'il y a un ami, un philosophe et écrivain, elle s'appelle Marcia Tiburi. Elle est candidate pour les partis de travailleurs, les partis de Lula. Elle est candidate à être gouverneure
de l'État de
Rio.
Alors, pour les auditeurs, je dirais, les gouverneurs, on peut dire que c'est un peu l'équivalent chez nous, les préfets.
Ah, préfet. Et donc, elle m'a invité pour être ton main gauche, pour collaborer dans les programmes culturels.
Ah oui.
Oui. Et donc, pendant les commissions.
Les
Comícios da Cinelândia.
Je sais pas.
C'est aux eventos onde você fala com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas.
Comme des conférences un peu?
Oui, les conférences publiques, des présentations des candidats, comme Haddad, Fernando Haddad pour la présidence, et Marcia pour préfet.
Oui.
Préfet. Et donc, je suis encarreguée.
Je suis en charge
d'appeler tous les artistes. Et donc, j'ai appelé Chico Buarque, Caetano Veloso, Lucélia Santos, Aderbal, Freire Filho, et tous les artistes pour être publiquement dans les palanques, au palco du comício.
Sur scène. Ces débats, ces présentations. Et du programme, en fait, du programme
de gouvernement.
Voilà. Et alors, Marcia n'a pas été élue, finalement, mais vous étiez…
Oui, et donc, c'est très, très public, parce que c'est pour 200 000 personnes dans la place publique au Rio. Et comme je ne suis pas un politicien professionnel, c'était ma première… expérience.
Oui.
Je suis un peu d'ingénuité.
Naïveté.
Naïveté, parce que je pense, non, je suis artiste, je collabore avec l'écriture et je suis leftiste.
Auteur. Lettriste.
Non, gauche, esquerdiste.
Je suis de gauche, oui.
Je suis de gauche. Donc, pour moi, c'est ça. Mais il y a à Rio la milice. Les miliciens.
Oui, c'est une police privée.
Très dangereux. Ils ont tué Marielle.
La députée, Marielle Franco.
Oui.
Qui a été tuée.
Parce qu'elle est gay, elle est femme.
Ah bah, elle était noire, homosexuelle.
Exactement.
Elle défendait les personnes défavorisées qui étaient victimes de violences policières.
Exactement.
Donc, c'était la femme à abattre pour le régime
fasciste
de Bolsonaro.
Oui.
Est-ce que vous savez, Béatrice Azevedo, qu'à Paris, maintenant, il y a une place Marielle Franco?
Ah, génial, bravo. Merci, France, pour cet hommage. Elle déserve. Elle mérite. Je la connais. À ce temple-là, elle a étudié à PUC,
à l'université publique catholique.
Exactement.
Qui est d'un très bon niveau. Hein.
Oui, génial.
Vous aussi, vous avez étudié à la PUC, non?
Non, j'ai donné en conférence. Là,
d'accord.
Là, j'ai étudié à São Paulo.
Et est-ce que dans votre cas, vous pensez que c'était un peu risqué?
Oui, très risqué, parce que les mêmes miliciens qui ont tué Marielle, ils passent à persécuter Marcia, candidate, Jean Wyllys, c'est un député fédéral, gay aussi, homosexuel aussi.
Et il a dû quitter le Brésil.
Oui, et tout le monde.
Il est allé en Allemagne, je crois.
Non, il était à Barcelone, à Espagne. Marcia est allée à Paris. Et donc, j'ai pensé, non, à moi, c'est bon parce que je suis artiste, je ne suis pas un politicien. Mais quand je prends ma bici.
Votre bicyclette?
Bicyclette pour aller à Lagoa.
Oui, la lagune, juste derrière.
Ouais, j'habite ici. Et donc, en voiture.
Une voiture?
Avec les vitres negres.
Les vitres teintées?
Oui.
Vous avez suivi?
Oui. Et donc, pendant 2 semaines, tous les jours, je prends ma bicyclette et je dis, OK.
Oui, c'est bizarre.
C'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Et donc, pour confirmer, je demande au porteur de...
Au gardien.
Au gardien de mon édifice.
De votre immeuble.
Oui, de prendre la photo.
Oui.
Parce que quand je salais la voiture noire...
Systématiquement.
Systématiquement. Et donc, j'ai...
Qu'est-ce que c'est ce bruit, Béatrice?
Je pense que c'est les Flamengo qui a vaincu.
L'équipe de foot qui a gagné hier. C'était un peu la foire dans Rio, ouais, parce que la... Flamengo, c'est une équipe qui a beaucoup de supporters.
Oui, exactement.
Et donc, pardon, on a été interrompu, mais bon, voilà, on est dans les conditions
et donc,
directes.
Il y a, pour confirmer, je demande qu'autre personne prenne les photos. Et donc, je sais, mon Dieu, je suis, même sans être un politicien professionnel, je suis en risque.
Oui, ça fait peur un peu.
Et donc, je parlais avec mes amis l'étranger, Marcia, à Paris, et je raconte qu'est-ce qui se passe, et elle m'a dit, s'il vous plaît, ne reste pas au Rio, c'est dangereux, c'est très dangereux.
Ah, et là, vous êtes partie à New York.
Oui, et D'accord. Donc, en même temps, j'ai reçu cette invitation pour être vinculée à l'université. Donc, c'est génial, parce que c'est un département des arts, la Tisch Arts de NYU, New York University, avec très bons intellectuels et professeurs.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes partie de Rio, c'était en quelle année?
2021.
D'accord.
La séquence de la pandémie.
Voilà.
2020, tous les ans, et les 21, un peu.
La conséquence de la pandémie, oui, c'est ça. Je reviens un petit peu sur la politique, Beatriz Azevedo. L'ancien président Jair Bolsonaro a été condamné à une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Mais en fait, il n'était pas véritablement en prison. Il était plutôt dans un commissariat de police parce que il est malade. Il souffre d'un cancer de la peau et il a aussi des... Je ne sais pas si vous avez lu ça, je ne suis pas méchant hein, comme personne, mais j'ai lu qu'il avait des crises de hoquet. Le hoquet, c'est le solus.
Ah,
ah oui, c'est grave. Hein.
Mm-hmm.
Pas de mauvais esprit. Or, là, nous avons appris, il y a peu de temps, qu'il allait en prison, Jair Bolsonaro,
mm-hmm,
pour de vrai. Est-ce que vous avez été surprise par cette décision?
Non, je pense que c'est la justice. Je pense qu'il devoir... payer toutes les responsabilités qui... Parce que pendant la COVID, Gilles, 700 000 personnes mortes sont mortes.
700 000
700 000 personnes. 700 000 personnes.
70 000 personnes, oui.
Pourquoi ils ne permettent la vaccine? Et à São Paulo, l'Institut Butantan a préparé la vaccine.
Le
c'est
vaccin.
Une très bonne institution de santé, le Butantan. Et donc,
c'est un nom bizarre, Butantan.
Butantan, c'est un nom indigène,
ah oui,
indien, et Butantan. Mais Bolsonaro travaille contre la santé, contre la science, contre l'éducation, contre la culture, contre la liberté. Et donc, c'est très grave qu'il fait.
Oui, il disait même dans ses discours à la télévision, il disait aux gens, allez travailler, il faut que l'économie fonctionne, allez travailler. Mmh. Et ça a énervé beaucoup, par exemple, le maire de Sao Paulo qui était Haddad,
mm-hmm,
qui est de gauche, et qui disait non, vous n'allez pas travailler, vous restez à la maison. Et l'économie, on s'en fiche. Enfin, c'est, mm-hmm, pas on s'en fiche, mais la santé, c'est plus important.
Exactement. Il même ridicularisé, il appelle la pandémie de Covid d'une petite grippe.
Une petite grippe, voilà. Oui.
Et il débauchard.
Il plaisantait.
Il plaisanterait avec les gens qui souffrent. Il fait.
Il faisait semblant de pleurer.
Oui, c'est très.
Non, c'est un comportement bizarre. Quand
bizarre.
Même.
Il est malade. Il est fou. Il est pur sens de les mots. Il est malade.
Du cerveau, hein.
Oui.
On est d'accord. Alors aujourd'hui, Beatriz Azevedo, votre vie d'artiste, c'est surtout la musique?
Oui, je mélange tout. J'ai mon dernier album. J'ai commencé à travailler pendant la pandémie en circulant l'œuvre de Clarice Lispector.
Qui est une auteure très respectée
au
Brésil.
Oui, une des plus grandes écrivains au Brésil. Clarice Lispector, elle est traduite en français, elle est publiée par Gallimard.
Oui, elle est traduite dans beaucoup de langues, je crois.
Oui, et j'ai créé avec Moreno Veloso.
Qui est un des enfants de Caetano Veloso, le chanteur.
Exactement, mon ami Moreno, pendant la pandémie, il est venu ici, à mon appartement, et nous jouons la musique, la guitare, nous chantons, nous créons. Autour de l'œuvre de Clarice Lispector. Et donc, il y a un très bon album musical.
Alors, Beatriz Azevedo, comment est-ce qu'on pourrait présenter l'œuvre de Clarice Lispector pour la personne qui ne connaît pas l'auteur?
Oh, c'est une femme très originale.
Oui.
Elle est très profonde. Et elle a inventé une musicalité, un langage propre. Et c'est très différent. L'originalité, c'est les mots pour Clarice Lispector. Et je suis très passionnée par sa œuvre.
Donc là, c'était le centenaire de sa naissance,
oui,
c'est ça?
C'est le centenaire.
Elle est un peu contemporaine de Vinicius de Moraes, à peu près.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Et donc, à Princeton, l'université de Princeton aux États-Unis, pour célébrer le centenaire de Clarice, m'a invité pour créer un spectacle, créer un projet autour de Clarice. Et donc, j'ai invité Moreno, j'ai invité Maria Bethânia.
Oui,
elle a accepté. Elle participe ici.
D'accord.
De le disque. J'ai invité.
Ah, je vois qu'il y a Jacques Morellenbaum aussi,
Morellenbaum,
qui est un très bon,
musicien
qui joue du violoncelle.
Exactement, génial. Et donc, même Caetano Veloso, il a un première des gens qui a vu notre spectacle, notre création. Et elle adorait parce que Caetano et Maria Bethânia, à Santo Amaro da Purificação,
à Bahia,
quand ils étaient jeunes, et ils découvrent Clarice Lispector.
Voilà.
Et Bethânia, il y a comme 15 ans, elle commence à lire Clarice Lispector, 15 ans. Donc,
quand elle était adolescente, quoi.
Oui, exactement. Et donc, ça, c'est notre connexion.
Mm.
Plus que Moreno, la connexion, c'est Clarice. C'est comme Clarice jouait, Bethânia jouait Clarice, Caetano aimait Clarice, découvert, et j'adore Clarice. Et donc, Caetano a écrit un très bel test pour les albums.
D'accord. Alors, j'ai oublié de vous poser une question, Beatriz Azevedo. Quand vous aviez cet engagement politique avec cette candidate au poste de gouverneur qui s'appelle Marcia, donc elle n'a pas gagné, qui est le nom du gouverneur qui a gagné les élections?
C'est un corrupte qui est, je pense que ma tête a bloqué ton nom parce que c'est des droits. Et c'est très stupide. Il commémorait quand la police tuait l'agent.
Non.
Et il commémorait.
Non.
Non. Comme c'était en football ou en foot.
Non, mais c'est d'un cynisme, d'une indécence.
Cynisme.
C'est pas Sergio Cabral, quand même.
Non, c'est depuis.
Après.
C'est un sujet, pour la première fois, il était le gouverneur et il n'a pas la tradition politique et il est très connecté avec Bolsonaro. Il a vaincu parce que Bolsonaro a vaincu la présidence, il a vaincu
Il a gagné.
Il a gagné pour être le gouverneur.
Le gouverneur de l'État de Rio. Hein.
De Rio. Donc j'ai oublié ton nom.
C'est peut-être inconsciemment votre cerveau qui fait un blocage, vous savez.
Exactement.
Pour vous protéger.
Exactement.
Un mot sur cette collection de poésie aussi, Béatrice.
Ah, exactement. C'est la poésie contemporaine de Brésil. Et est-ce que pendant la pandémie, beaucoup d'artistes, beaucoup de poètes, il n'y a pas quelques aides du gouvernement. Il y a peut-être quelques conditions de travailler.
Tout était fermé, les théâtres étaient fermés.
C'est interdit de travailler, d'aller au théâtre et tout. Donc, beaucoup de gens, ils n'ont pas condition pour acheter les remèdes.
Les médicaments.
Les médicaments. Il y a une situation tragique. Et donc, j'ai sens que je devoir aider. Et donc, nous créons un mouvement pour aider les poètes brésiliens. Et j'ai invité comme Chico Buarque, Alice Ruiz,
J'ai vu Zélia Duncan aussi.
Oui, beaucoup de poètes pour être des conseils. Nous créons un conseil des grands poètes reconnus au Brésil et une campagne de ici.
Alors, on dirait une cagnotte.
Cagnotte. Et donc, tout l'argent que les gens ont donné a été distribué pour les poètes. Et donc, le recteur de l'université.
Le recteur. De l'université.
D'une très importante université au Brésil, Unicamp, offre de publier des anthologies de poésie. Et donc, j'ai organisé trois volumes, trois livres. Un seulement, la poésie noire. Donc, seulement la femme, le homme noir du Brésil qui est ce poète. La poésie indigène, seulement les Indiens, il y a comme Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Eliane Potiguar, beaucoup de leaders indigènes qui écrivent très belles poèmes. Et le troisième volume, c'est seulement la femme poète. Et donc, j'ai invité aussi les poètes qui écrivent les livres, mais beaucoup la poète qui fait la chanson, les mots de la
auteurs,
musique.
Des auteurs.
Comme Adriana Calcanhotto, Zélia Duncan, de chanteuses qui sont mes amis, et beaucoup de poètes brésiliens. Et donc, c'est distribué pour tout la bibliothèque de Brésil, pour tous les gens qui ont contribué dans la campagne.
Alors, j'ai deux questions, Beatriz Azevedo. Pourquoi avoir segmenté la poésie noire indigène et faite par des femmes? Est-ce que ça n'est pas une approche un peu communautaire? Parce que là, vous n'avez pas du tout mélangé, alors. Hein?
Non, parce qu'à ce moment-là, historique et politique, il y a beaucoup de mouvementations pour un concept de réparation. Est-ce que
je comprends.
La poésie brésilienne des siècles 20, c'est surtout masculin.
D'accord.
Et blanche.
D'accord, je comprends.
Il n'y a pas le livre d'un poète noir. Il y a peu de livres de femmes. Tous les poètes sont hommes et blanches.
D'accord.
Et donc,
XXIe siècle.
Oui.
Vous avez eu cette logique un peu de réparation.
Des réparations.
D'accord, oui, je comprends. Alors, je trouve que pour une artiste, Beatriz Azevedo, parfois on dit oui, les artistes, ils sont un petit peu auto-centrés sur leur nombril, parce qu'ils pensent qu'à eux, etc. Et vous, au contraire, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui est vraiment dans le collectif.
C'est vrai.
C'est votre personnalité.
Oui, un peu de la personnalité, un peu de la formation intellectuelle dans l'université, j'ai écrit ma thèse de doctorat et il y a une chose très belle dans l'université, que c'est très proche de l'esprit que je vivre dans le théâtre officine.
Ah oui, mais alors ça, il faut que vous expliquiez ce que c'est que le théâtre officine, parce que c'est un monument, c'est complètement à part. Oui. Dans le théâtre, c'est un théâtre qui a été créé dans les années, je crois, 50 ou 60.
C'est très vanguard.
Complètement avant-gardiste, complètement alternatif, provocateur.
Oui, exactement.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Une volonté de perturber vraiment le spectateur.
Oui, exactement. C'est...
Parfois, c'était des grossièretés ou je ne sais pas quoi.
C'est génial. Et l'architecture, mon père, c'est architecte. Et l'architecture de théâtre officine a créé par Lina Bobard.
Oui, je ne sais pas qui c'est.
Lina Bobard, c'est un grand architecte qui a créé les MASP, les musées d'art de Saint-Paul, oui. Les Sesc Pompéi,
ah, oui. Alors...
la fabrique. Tous les
CESC, ce sont des centres culturels,
publics,
souvent de très bon niveau.
Très bon niveau. Et les théâtres officines, qui c'est un théâtre très original, parce que ce n'est pas la structure des théâtres italiens. L'architecture traditionnelle avec l'audience et la scène.
Oui.
Non. Les théâtres officines, il y a un tête qui abre.
Un toit qui s'ouvre.
Dans le milieu de la performance. Il y a de l'eau, il y a une fontaine. Et c'est un théâtre très tropical, très avec la nature. Donc, il a la connexion de l'audience avec les artistes. C'est très proche. Il y a beaucoup de
contacts physiques, même.
De contacts physiques. Des interactions, des participations.
D'accord.
C'est un théâtre très révolutionnaire. Donc, ma formation, je commence comme une actrice à 18 ans, en jouant Ophélie avec la direction, la metteur en scène des Essels, Martinez Correa,
qui était le directeur du théâtre officine. Et vous avez même chanté avec lui.
Exactement. Il est de la génération de Caetano. Il est très proche de Caetano Veloso, Gilberto Gil, et au cinéma Glauber Rocha et le théâtre Zacels. C'est toute une génération tropicaliste, très avant-garde.
Très engagée, très iconoclaste.
Exactement. Et pour la transformation sociale. Donc, je commence très jeune avec directeur, metteur en scène.
Alors, il est mort, malheureusement.
Oui, c'est une grande tristesse pour moi. Et mon père aussi. Et donc, ma formation, c'est la collectivité, la création et la conception qu'un artiste, c'est un citoyen qui doit travailler pour changer l'injustice, la inégalité.
Les inégalités. Oui. En fait, Béatrice Azevedo, il n'y a pas beaucoup de marketing dans votre art. Hein.
Non, pas du tout.
On n'a pas besoin.
Pas du tout. Non, je suis contre le marketing. C'est un commerce de vulgarité.
Oui, mais il y a beaucoup de marketing dans l'industrie de la musique.
Oui, mais j'aime la musique, l'art et la création poétique et pas de l'industrie.
Oui,
je ne suis pas content dans l'industrie de la musique parce que il tue l'art pour les lucres.
Oui, pour le profit.
Oui, pour le profit. Donc c'est.
Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Alors on est à Rio, peut-être la plus belle ville du monde. Je crois que c'est Elsa Soares qui disait dans la chanteuse brésilienne qui est morte aussi malheureusement, mais elle est morte âgée. Elle a une belle vie. Difficile, mais très riche. Elle disait, il faut être un petit peu schizophrène pour supporter, en fait, Rio de Janeiro, parce que c'est la plus belle ville du monde. Mmh. Et vous pouvez très bien sortir de votre immeuble et de voir quelqu'un qui dort dans la rue, sur le trottoir.
Exactement. C'est les contrastes absolus. Et São Paulo aussi. Je suis née à São Paulo et j'habite à Rio pendant 13 ans. Mais je pense que Rio, c'est plus authentique, c'est plus honnête.
Ah bon?
Les contrats.
Oui, d'accord.
Donc, à São Paulo, c'est plus loin.
Alors, c'est vrai ce que vous dites, parce que à São Paulo, par exemple, les, ce qu'on appelle les favelas ne sont pas dans les quartiers chics.
Non.
Alors que là, vous habitez dans un quartier qui est considéré chic.
Et si, à côté, il y a la favela.
Voilà.
Donc, quand je vais à la plage, et c'est tout mélangé. Et dans les métros, c'est tout mélangé. Ouais. Et donc, c'est plus proche de New York. New York, les dons des banques utilisaient les métros comme les travailleurs.
Les patrons des banques comme les ouvriers.
Oui. Ouais. Et à São Paulo, non. À São Paulo, non. L'élite.
C'est plus segmenté.
Oui, ouais. L'élite, avec la voiture particulière, l'élite n'utilise pas les transports publics.
Public, voilà.
Oui, à New York, oui. À Rio, oui. Et parce que la plage, c'est très démocratique.
Alors là, c'est la chose la plus démocratique, hein,
exactement,
la plage.
Exactement. C'est du grâce.
C'est gratuit déjà.
C'est gratuit et c'est ouvert et il n'y a pas de police. Et donc.
C'est vrai. Alors, il y a des gens qui, dans cette ville, ont une vie vraiment difficile, hein, parfois même misérable. Pourtant, en général, le Brésilien, je trouve, il a un certain talent pour le bonheur et la joie. Mm-hmm. Ça, c'est un peu un atavisme quand on est Brésilien. Et vous en avez même fait un disque de ça.
Qui s'appelle Joie.
Allégrie.
Allégrie, exactement. Et je pense que c'est à cause de l'Indien, la mélange historique, plus de 5 siècles, avant la colonisation. Et donc, les Indiens, ils sont très heureux avec la rivière, avec la nudité, avec...
Ah oui, ils n'ont pas de problème avec le corps, hein,
non,
les Indiens.
Nudité, et se baigner dans la rivière, et la nature, et les rituels, tous les rituels, c'est très festif. Et donc, je pense que c'est un héritage de la joie. Les Africains, historiques un peu depuis des Indiens, ils sont très, très heureux aussi. Il y a beaucoup de force, d'énergie pour danser, pour chanter, la percussion. Et donc, les mélanges, je pense, de les Africains, les Indiens et un petit peu de Portugais, des Européens, même ici à Rio, il y a les France Antarctique.
Oui, il y a une expérience d'occupation de Rio qui s'est très mal terminée pour les Français.
Oui.
Voilà, c'était...
Mais c'est en influence aussi, parce que les Français, pendant la France Antarctique, il a été ému avec les Tupinambas.
Oui, avec les Indiens.
Oui, exactement.
C'est ils ont fait un pacte.
Ils ont fait un pacte, oui. Exactement. Donc, il y a beaucoup de rencontres.
Contre les Portugais.
Exactement. Les colonisateurs portugais.
Oui.
C'est un autre type de domination. À ce moment-là, les Français, c'est avant-garde.
Alors moi j'ai une petite théorie pour la musique. Je pense que c'est plutôt l'Africain qui a influencé la musique brésilienne, notamment avec le rythme et la percussion. Et l'Indien, qui est le premier, qu'on va arrêter d'ailleurs d'appeler l'Indien, on va l'appeler l'indigène, hein, parce qu'il vient pas du tout d'Inde. Je ne sais pas pourquoi. C'est celui qui a le plus souffert, l'Indien. Et je ne sais pas pourquoi il est à ce point méprisé, l'Indien, encore aujourd'hui, je trouve. Souvent, il est marginalisé.
Oui, oui.
Il y a le jour de l'Indien au Brésil.
Oui.
Il y a un jour dans l'année où c'est le jour de l'Indien, comme nous avons, nous, la journée sans cigarette, la journée des amis, la journée des voisins, la journée de la femme, qui est une insulte, je trouve. Hein. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'Indien, il soit... un peu marginalisé, méprisé.
Parce que le procès de la colonisation, c'est brutal. C'est brutal. C'est plus grave que tous les génocides du monde, de l'histoire, en quantité des indigènes assassinés pendant la colonisation, c'est incroyable. Et donc, je pense que c'est historique parce que ici, l'appelons les paradis, le Brésil, la nature, le climat.
Ah oui, mais quand le Portugais est arrivé, il s'est dit, je suis arrivé. Il a écrit une carte au roi en disant, il a décrit, mais il dit, mais c'est le paradis, le plus bel endroit du monde.
Exactement.
En plus, l'Indien, il est venu lui offrir des fruits.
Exactement. Et donc, et danser, balayer.
Et des femmes.
Exactement. Voilà. Donc, c'est une stratégie malévole de prendre la femme indigène, prendre les territoires, tomar las riquezas.
Prendre la richesse.
Prendre la richesse. C'est une exploitation totale, absolue. Donc, c'est un projet de colonisation très grave. Et les génocides, c'est incroyable. Et même la langue, là, il y a ce temple-là, l'obligation de la propre religion des indigènes, qui c'est l'anthropophagie, les propres rituels, étaient interdits à cause de la religion catholique. C'est une imposition historique d'une langue portugaise, d'une religion, des vêtements. Non, la nudité, ils sont purs,
oui.
Ils sont naturels.
Mais pour le catholique, on ne doit pas montrer les fesses, on ne doit pas montrer les parties génitales.
Exactement,
c'est péché. Bien sûr.
Donc c'est toute une autre conception des vies et déconnectée de la nature. Parce que c'est les indigènes, c'est très connecté avec
complètement
la nature. Donc, c'est une imposition autoritaire et violente qu'il y a les conséquences jusqu'à aujourd'hui.
Alors, cela dit, Béatrice Azevedo, aujourd'hui, l'Indien, est-ce qu'on peut dire qu'il est protégé puisqu'il a un organisme qui s'appelle la FUNAI, qui est la fondation de l'Indien, et il a des territoires réservés où l'homme blanc, qui peut être noir, hein, mais on va dire c'est l'homme blanc, celui qui n'est pas indien, a interdiction de pénétrer.
Oui, il y a quelques réserves indigènes. Je suis allé au parc indigène de Xingu. Je suis là avec…
C'est où, le Xingu?
Le Xingu, c'est au centre du Brésil.
D'accord.
C'est comme au Mato Grosso.
Oui.
Il n'y a pas de plage, c'est
non,
le centre.
Ouais.
Et je suis là avec Cacique Raoni.
Ah oui,
oui.
Vous l'avez rencontré?
Oui, oui, génial, c'est une expérience. Il y a le rituel des Kwarupi. C'est pendant 2 semaines, il y a beaucoup de rituels, des chants.
Mais
de
pourquoi
danse.
Vous êtes allé là-bas? À quelle occasion?
Parce que je suis chercheur d'anthropophagie.
D'accord.
Et parce que je suis en train de faire un documentaire à cause de l'anthropophagie, audiovisuel, long métrage, et donc je suis allée pour filmer.
D'accord.
Et pour connaître et pour vivre cette expérience avec les indigènes. C'est très touchant pour ma vie, je suis autre personne.
Ça vous a changé, vous pensez?
Oh, totalement, totalement, parce qu'il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas.
Oui.
Il n'y a pas de lit.
De lit.
Non, nous dormons
dans un hamac.
Dans un hamac, nous mangeons avec la main.
Oui.
Les fiches,
les poissons.
Les poissons. Et nous baignons
dans la rivière.
Donc c'est autre vie.
Oui.
Mais c'est très connecté avec la nature et la gens. C'est très sensible. Il y a beaucoup de communications, les yeux.
Parce que certains Indiens ne parlent pas le portugais.
Ne parlent pas de portugais. Et donc, je sais un petit peu, quelques peu mots de toupie, mais donc, la communication, c'est avec les yeux,
ah oui.
Les gestes,
oui.
Et la sensibilité. Donc, jamais l'expérience, pour moi, c'est une vie géniale.
Et ce film, est-ce que ce sera possible de le voir?
J'espère, mais je suis en train de faire. Et le cinéma, c'est très difficile, c'est très cher. Le process technique du cinéma, c'est long et difficile. Mais j'espère qu'en quelques zones, j'ai la ouvre terminée, complète, et je peux te montrer, et à cause des centenaires d'anthropophagie.
Ah, parce que ça va être le centenaire du manifeste.
Exactement.
C'était 1928,
oui.
La semaine d'art de Sao Paulo.
Non, la semaine d'art, c'est 1922.
Ah, 1922.
Et le manifeste anthropophage, c'est 1928.
1928.
Donc, je prépare les films, je prépare beaucoup de livres, je prépare un autre album à cause de ces mouvements, de ces connaissances qui viennent des indigènes, qui viennent de la nature et qui viennent de cette présile de Pindorama, terre des palmeras.
Alors, la terre des palmiers.
Exactement. Que c'est le Brésil avant la colonisation, avant de l'arrivée des Européens au Brésil. Il y a une culture, une philosophie, une religion, un art. Il y a très originel et très sachante. Il y a beaucoup de connaissances de la...
Ah, mais l'Indien, il sait parfaitement que s'il y a une maladie, quelle feuille d'arbre il faut prendre, comment il faut la préparer, il sait se soigner.
Oui, il n'a pas de pharmacie.
Ah ben non, il y a la forêt.
Oui, exactement. Il y a la nature, c'est la...
Et alors, pourquoi est-ce que l'homme n'imite pas, ne s'inspire pas de l'Indien, et pourquoi est-ce qu'on a des laboratoires pharmaceutiques?
À cause de profit, à cause de l'ambition, à cause de... C'est la mentalité colonialiste d'exploitation de l'autre. Et l'Indien ne comprend pas, il n'accepte pas, il ne compacte pas.
Non, il ne comprend pas.
Oui, c'est l'autre monde. Et je préfère les indigènes le capitalisme brutal.
Oui, alors nous, les Occidentaux, je pense qu'on manque un peu de sagesse par rapport à ça.
Oui.
Vous écoutez Allègre FM 93.1.
Parce qu'on pourrait guérir des maladies avec des traitements... tout à fait naturel, sans obligatoirement déposer des brevets pour des molécules de synthèse.
Mais... Exactement. Et ces moments-là, au siècle 21, nous vivons la revanche, la vengeance de la nature. Tout le climat, et les catastrophes, beaucoup de l'eau, et beaucoup de feu, et beaucoup de sèche. Il y a la vengeance de la nature parce que c'est un proof que l'homme blanche, l'homme civilisé,
entre guillemets,
oui, il a détruit tout.
Oui, mais moi je ne comprends pas parce qu'on sait que notre mode de vie, c'est mauvais. Quand on allume des centrales à charbon, quand on utilise des énergies fossiles, on sait que c'est mauvais pour la planète. Mais on continue quand même.
Oui, les gouvernements ont besoin de changer l'utilisation des fossiles, ou combustibles fossiles.
Oui. Alors, il y a des améliorations, il y a des progrès.
Exactement. Mais même maintenant, il y a les COP de ONU au Brésil.
Qui s'est tenu à Belém,
oui,
en Amazonie.
Et Donald Trump n'a pas venu.
Ah ben, ça ne l'intéresse pas du tout.
Oui, et les droites, les fascistes, non.
Ben, ils sont climato-sceptiques.
Oui,
déjà,
exactement.
Donc, ils vont pas. Alors, puisque vous évoquez la COP qui s'est tenue donc, au mois de novembre, d'ailleurs qui a été un peu polémique, comment est perçue l'image de notre président de la République, Emmanuel Macron, au Brésil?
Je pense que les gens lui adorent, et Lula et Janja.
Alors Janja, c'est la femme de Lula.
De Lula.
Ils sont proches.
Ils sont amis. Même Macron a invité beaucoup de jeunes au palace à Paris.
À l'Élysée, au palais de l'Élysée.
Oui, au palais de l'Élysée. Tous les temps, il a un dialogue ouvert et respectueux avec les indigènes, et parce que j'ai la théorie que depuis Michel de Montaigne, qui a écrit les essais et qui a écrit sur les Tupinambas et les cannibales, et je pense que les Français sont très sensibles pour les indigènes. En général, pour la connexion avec les indigènes, beaucoup plus que les Allemands, beaucoup plus que les Italiens.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites.
Oui, et je pense que Michel de Montaigne, c'est un philosophe génial. J'adore les essais. J'ai étudié beaucoup les chapitres à cause de Cannibal. Il écrit sur les rencontres des Topinambas avec les rois de Rouen à Normandie.
Oui, à Rouen.
À Rouen, parce que je suis allée.
Vous êtes allée à
Rouen, exactement, pour visiter, pour voir la rivière. Il y a un rituel Topinambas, plus de 200 indigènes.
Qui sont arrivés dans le port de Rouen.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'ils sont
pour la coronation des rois.
Pour le couronnement,
oui,
du roi.
Des rois, c'est en performance indigène.
Mais pour le couronnement du roi de France.
Je pense que oui, à Rouen.
Alors c'était presque une attraction.
Oui, c'est un comme en performance, un événement, et donc. Et Montaigne a écrit les essais à cause de ce dialogue, les chamans indigènes avec les rois.
D'accord.
Et donc, Montaigne a dit, les chamans, que nous appelons à la civilisation, qu'ils sont barbares, ils sont primitifs, mais ils sont beaucoup sages que les rois civilisés.
Il est plus sachant.
Sachant que les rois
oui.
civilisés.
Ouais.
Et donc Montaigne, il a une perspective très progressive, très...
Ah ben, je pense qu'il était en avance sur son temps. Hein.
Oui.
Et puis, tous les intellectuels du siècle des Lumières, qui a eu d'ailleurs une influence au Brésil, hein, le siècle des Lumières, ben, au bout d'un moment, ils se sont dit « ça n'est plus possible de pratiquer l'esclavage ». Voilà, peut-être que ça a eu une petite impulsion. Alors, sur la question de l'esclavage, moins que l'Angleterre, hein, parce que pour des raisons économiques, à un moment, l'Angleterre a dit au Brésil, on va arrêter d'acheter votre sucre et votre café parce que vous pratiquez encore l'esclavage, alors que regardez, nous, tout le monde est en train de l'abolir. Donc, ça a duré encore un petit peu, quelques années, mais voilà. Non, c'est vrai, il y a eu une influence du siècle des Lumières. Et ben moi, j'ai passé un très bon moment chez vous, Béatrice Azevedo.
Merci
de l'hospitalité. Oh. Vous êtes vraiment incroyable. Je connais rarement d'artistes qui sont autant pluridisciplinaires. On a l'impression que tout vous intéresse
oui.
et que vous aimez tout dévorer.
Je suis un vrai anthropophage.
Ah oui, vraiment.
Je suis très intéressée par l'autre et par le langage et par la société et par la vie.
Alors, c'était très intéressant. Alors, est-ce que je peux repartir avec le disque?
Oui, c'est un cadeau pour toi, les livres,
et les disques. Et les livres de poésie.
Les disques, merci beaucoup.
Merci à vous.
J'adore dialoguer, toute notre rencontre.
C'est toujours
bon.
Intéressant.
C'est toujours intéressant, nous interchangeons.
C'est vrai.
Et vous êtes très douce, très gentille.
C'était un très grand plaisir. Merci beaucoup, Béatrice Azevedo.
Merci beaucoup, Gilles.
watch everything. Dawn is next tonight and getting tired. And all the afternoons are falling.
Enquanto isso, anoitece em certas regiões. E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, assistiríamos tudo. A madrugada perto da noite escurecida. A tarde inteira, logo após o almoço, o meio-dia acontecendo em pleno sol, seguido da manhã que correu desde muito cedo.
After lunch, noon rose into full sunlight, and then another morning running early, seen only by those who rose in time to work. In the dawn, there was the rise. In the dark, there was the rising.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.